Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Philippe Pozzo di Borgo. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant je vous assure, vous connaissez son histoire, c'est celle racontée dans le film Intouchable. Il y a 22 ans, il est victime d'une chute de parapente qui le rend tétraplégique, il a alors 42 ans et doit en fait réapprendre à vivre. Il vient de publier « Toi et moi, j'y crois » aux éditions Bayard. Philippe Pozzo di Borgo, bonjour.
Bonjour Claire.
Je suis très heureuse de vous recevoir, d'abord merci parce que je fais partie des gens que le film Intouchable a fortement marqué, et donc c'est votre histoire qui m'a marqué. Vous avez déjà raconté votre histoire dans un livre, aujourd'hui vous en publiez un autre, « Toi et moi j'y crois ». Pourquoi ce livre ?
Parce que le premier livre c'était le choc de l'accident. Et donc c'était plutôt dans le mode chagrin, parce que mon épouse devait décéder dans la foulée. Et donc j'avais écrit ce premier livre pour sortir de cette dépression. Et ce livre, curieusement, a inspiré des réalisateurs pour venir me voir et me proposer de faire Intouchable. Et j'ai trouvé que ça, c'était une autre manière de raconter l'accident qui est plus humaine. Je n'allais pas dire plus drôle, mais presque. Mais après ce film Intouchable qui a eu un succès mondial, que ce soit en Afrique où j'habite ou que ce soit dans le monde entier, en France, en Europe, ça a été épouvantable, le succès de ce film.
J'ai vu débarquer les caméras de télévision chez vous à Essaouira où vous vivez.
Ça, c'est un aspect assez amusant et positif. Ce qui était beaucoup plus tragique, c'est que j'ai reçu des dizaines de milliers de mails du monde entier, dans toutes les langues. Et là, j'ai découvert que le handicap, c'est pas que de la comédie, du cinéma. Je le vis depuis 22 ans, mais pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus tragique que pour moi, qui suis un privilégié du handicap. Et donc je me suis rendu compte que le handicap, c'est une vraie misère physique, affective, sociale. Et il ne touche pas seulement les gens qui sont en fauteuil, ce sont les gens qui sont exclus. Ce qui est le thème du film d'ailleurs, c'est pas seulement l'exclusion physique du handicap en fauteuil, c'est Omar Sy qui sort de prison. Et ce garçon qui m'a aidé pendant 10 ans, Abdel, était un handicapé social. Donc je pensais que là, il fallait faire un livre, recadrer un petit peu la réalité du handicap et la sortie du handicap qui est dans le rapport à l'autre.
Philippe Pozzo di Borgo, vous venez de dire « je suis un privilégié du handicap ». Alors quand on vous voit quand même dans un fauteuil et on se dit « bon, pas tellement privilégié », pourquoi vous dites ça ?
Parce que le handicap est un métier très coûteux. Nous sommes totalement dépendants. Alors dans les pays riches comme la France, l'État assure assez bien cette dépendance, et encore, dans des conditions, on met les handicapés ensemble et on les isole un peu du monde. Mais en Afrique, au Maroc où j'habite, c'est une certaine misère, et le handicap, il manque de moyens complètement. Par contre, il a l'énorme avantage, c'est que la famille est tout autour de vous. Donc je dis toujours, si on pouvait mettre un peu d'Occident et un peu d'Afrique en même temps, les handicapés seraient debout.
Est-ce qu'on essaye de faire, nous, dans cette émission d'ailleurs, la passerelle Nord-Sud ? Vous l'avez dit, vous avez raconté votre histoire dans un livre, Le Second Souffle. Hein. Après l'accident, vous avez passé 3 mois dans le coma. Vous vous êtes retrouvé tétraplégique. Comment vous avez réagi au moment de votre réveil ? Ou en fait, ça se passe pas exactement comme ça, parce qu'en fait, le réveil est progressif.
Oui, le réveil est très long. Et les drogues vous font halluciner un peu. Mais je suis encore une fois quelqu'un de privilégié. J'ai toujours été habitué à prendre ma responsabilité, réagir, agir. Et donc j'ai été sûrement un handicapé Superman, modèle. Ils n'avaient jamais vu un handicapé se remettre debout aussi rapidement. J'étais accompagné encore une fois. Mon épouse vivait encore, j'avais mes enfants, j'avais la famille, j'avais les amis, il y avait les moyens. Donc je me suis remis sur pied très très vite.
Vous avez fait preuve quand même à l'époque de beaucoup d'énergie, effectivement.
Oui. Il faut l'énergie, il faut être accompagné et on y arrive. La difficulté du handicap, c'est celui qui se retrouve seul. C'est toujours ce problème que le handicap est avant tout une solitude. Si vous n'avez pas cette solitude, vous êtes presque sauvé.
Vous dites d'ailleurs que vous avez été confronté à 3 longues périodes de silence dans votre vie. La première, justement, le début du handicap.
La seconde, qui était la plus difficile, ça a été le décès de mon épouse. Parce que là, le handicap il s'installe d'un seul coup. J'ai été handicapé depuis 2 ans, mais ça ne me gênait pas plus que ça, parce qu'elle était là. Le jour où vous êtes seul, le handicap s'installe, et c'est la dépression. Et la dépression, c'est une maladie du siècle, une maladie mondiale. Et c'est très difficile, la dépression, parce que vous en sortez pas tout seul, encore une fois. Ça prend du temps.
Il vous a fallu d'ailleurs combien de temps pour accepter que vous étiez en train de faire une dépression ?
D'abord, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'essaye au début de me forcer de sortir de cet état. Il n'y avait rien à faire. Ça m'a mis plusieurs mois pour comprendre que j'avais un problème presque médical, j'allais dire. Ça se passait dans la tête, ça tournait pas rond. Et puis, Abdel Selou, qui est cet Algérien marocain, qui m'a aidé pendant 10 ans, qui jouait par un martial admirablement. Eh bien, au lieu de partir en courant en disant, mais celui-là, il va pas bien, il commence à me casser un peu les oreilles, il est resté là tous les jours. Donc, ce garçon qui était une brute, un caïd de banlieue, un chef de bande, qui sortait de prison, c'était une vraie mère poule. Sous son aspect très dangereux, et où il vous fait changer de trottoir quand vous le voyez, Abdel. Mais il n'y a pas plus gentil qu'Abdel. Il est resté là pendant des mois, au bout de mon lit, à attendre que je me réveille, et dès que j'avais un œil ouvert, qui voit que j'étais à peu près conscient, il me sortait des vannes épouvantables, et quand ça allait un peu mieux, il me mettait sur le fauteuil à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et il m'a emmené faire des bêtises. Il m'a remis sur pied.
Comme dans le film, effectivement, Omar Sy fait ça avec François Cluzet. Donc ça, c'est votre deuxième période de silence. En fait, il y en a eu une troisième tout récemment, l'année dernière, avec des ennuis de santé, de nouveau.
Oui. Près d'une année d'hospitalisation, totalement allongée, parce que avec le film Intouchable, encore une fois, j'ai un peu oublié que j'étais tétraplégique.
Vous avez fait trop de choses.
Avec mon épouse Radija, qui est du Maroc, ma seconde épouse, que j'ai épousée il y a 10 ans, on a fait le tour du monde, quoi. Avec ce film, ça a été effrayant. Et j'ai oublié que j'étais fragile. Et tout le monde oublie qu'il est fragile, mais le tétra, il faut quand même pas trop l'oublier. Donc ça m'a coûté une année d'hôpital, totalement allongé, sans oreiller, à regarder mon plafond.
Et qu'est-ce que vous vous êtes dit en regardant votre plafond ?
Eh bien d'abord, je me suis rien dit du tout, parce que on est dans un silence absolu. Et ça fait du bien, tout d'un coup, d'être dans le silence, après toute cette déferlante du film, où, pour les gens valides qui nous écoutent, le bruit et l'agitation qui entourent tous les gens dans l'activité. Pour la première fois, je suis vraiment confronté à un silence assez bienveillant, et on se retrouve. Donc quand on se retrouve, on voit un peu qui on est, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quelle est notre vraie identité, quelle est notre part de cinéma, vous voyez. On devient beaucoup plus authentique. Et puis surtout, une année à regarder un plafond, vous vivez intensément la seconde qui passe. Vous n'êtes pas comme vous les autres dans le monde valide, à courir, à anticiper, à planifier toute votre vie. Non, vous vivez maintenant. Et quand vous vivez maintenant, eh bien, quelqu'un qui rentre dans votre chambre, vous êtes disponible, vous êtes là. Quand vous courez, vous n'êtes pas disponible pour rencontrer l'autre. Donc j'ai découvert avec délectation, et c'est là un peu le sujet de ce livre de Toi et moi.
C'est ça, c'est un peu à ce moment-là que ça a germé, en regardant le plafond.
Ça s'est fait pendant cette hospitalisation. Délectation, en étant dans le silence, je découvrais l'autre, et qu'en découvrant l'autre tel qu'il est, pas tel que je le souhaite, tel qu'il est lui-même, il y a beaucoup de richesse, et on se remet debout très vite.
Vous dites d'ailleurs dans votre livre, je répondais aux impératifs de la société toujours plus, mais ça c'est même avant votre handicap.
Ça c'est pendant mes 40 années glorieuses, le gominé que j'étais. J'étais tout à fait dans l'impératif de l'Occident, hein. Je parle beaucoup moins de l'Afrique là. Mais l'Occident, c'est toujours plus tout de suite. Et on arrive dans une impasse. Parce que le toujours plus tout de suite, il se fait contre l'autre, pas avec l'autre. Il y a une espèce d'humiliation généralisée qui se crée, parce que moi je prends tout, et puis toi, c'est pas mon problème. Et vous voyez, ce rapport très brutal que nous connaissons dans notre société, et qui se traduit par des drames, il peut se résoudre si on prend le temps de regarder l'autre tel qu'il est et de s'oublier un petit peu.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, je reçois Philippe Pozzo di Borgo qui vient de publier « Toi et moi, j'y crois » aux éditions Bayard. Philippe Pozzo di Borgo, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question d'humiliation que vous venez d'évoquer, dont vous parlez dans votre livre, qui est un peu ce pourquoi vous avez eu envie d'ailleurs d'écrire. On est dans une société qui humilie beaucoup de gens.
Oui, nous sommes dans une société qui est riche de normes d'efficacité, de normalité. Et tout ce qui ne correspond pas ni à quelque chose de standard ou qui n'a pas la capacité d'être aussi efficace que souhaité est exclu.
Ce qui est le cas de la personne handicapée, mais aussi de celui qui n'arrive pas à bien suivre à l'école et qui se retrouve hors du circuit.
Oui, mais les exclus sont innombrables. Ce n'est pas le fauteuil. Le fauteuil, bien sûr. Mais c'est celui qui est un peu seul, celui qui n'a pas tout à fait le niveau intellectuel pour suivre, celui qui est un peu dépressif de temps en temps, celui qui est un peu malade, un peu fatigué, un peu âgé, un peu... Ils sont tous un petit peu exclus. Et cette société, au lieu de les intégrer, les repousse. Mais c'est un très mauvais calcul de la société, parce que on finit par repousser beaucoup de monde. La société marche. Mais avec qui? Puisque les autres ne peuvent pas être dans le circuit. Et puis surtout, en excluant ceux qui ne sont pas dans la norme, vous créez une anxiété considérable pour ceux qui sont encore aujourd'hui dans la norme et qui ne le sont pas demain.
Qui se dit ça peut m'arriver.
Mais ça vous arrivera à la vieillesse de toutes les façons. J'espère pas avant, mais c'est tout. Mais ça vous arrivera. Ça arrivera à tout le monde. Donc il faut se tranquilliser avec cette histoire. Nous sommes tous un peu fatigués, fragiles, vulnérables. Et on a tout intérêt à l'accepter le plus tôt possible, parce qu'on ira beaucoup mieux tous ensemble.
C'est cette question d'humiliation, de rejet, qui vous a fait si bien rencontrer Abdel Selou, celui qui vous a aidé, c'est Omar Sy qui joue ce rôle. Dans votre famille, on le voit bien d'ailleurs dans le film, mais je pense que c'était un peu la même histoire. On vous a un peu dit, tu cherches les complications, pourquoi tu vas prendre un repris de justice pour t'aider? Enfin, j'imagine qu'on vous a dit ça un peu.
Mais oui, soyons très honnêtes, quand j'ai embauché Abdel, j'étais encore un chef d'entreprise dans la tête. Je cherchais un garçon efficace, costaud, disponible en permanence, si possible assez drôle, mais pas trop, puisque ma femme est en train de mourir, et moi je sortais de 2 ans à l'hôpital, c'était dur. Donc j'ai choisi le plus pertinent pour ce job. Pas du tout, parce que c'est un pauvre gars. Il n'avait pas l'air pauvre quand vous le voyez, vous savez. Il vous fait pas pitié, il vous fait un peu peur, mais c'est tout. Donc c'est juste qu'il était le plus pertinent. Et c'est exactement comme dans le film. Le recrutement, ça a été ça. C'est après, quand j'ai reçu tous ces mails de détresse dans le monde entier, que j'ai découvert l'immensité de l'humiliation. Et comme je suis un privilégié, encore une fois, je ne peux pas me taire. Je suis obligé de prendre mes responsabilités, qui est de dire, ce n'est pas la bonne méthode d'humilier et d'exclure. Remettez-les au milieu de la société. Et c'est ce que nous faisons avec notre association Simon de Sirène pour les très très grands handicapés. On les remet au milieu de la société avec des jeunes du service civique et tout le monde se sent beaucoup mieux.
Simon de Sirène, c'est un personnage biblique. C'est peut-être pas pour rien que ce nom a été choisi.
Oui, c'est un nom que j'aime beaucoup. On connaît peu ce personnage. C'est un gars de Cyrénaïque, c'est-à-dire de l'est de la Libye. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui cette ville. Enfin, toujours est-il que c'est un travailleur immigré en Israël, elle-même sous occupation romaine, et il assiste à une bagarre entre juifs dont il n'a absolument rien à faire. Le Christ juif se fait maltraiter par les prêtres juifs et il porte sa croix. Et ce garçon qui a tout intérêt à écraser parce qu'il n'est pas chez lui, occupation romaine, et c'est une histoire de juifs, il va se pencher pour aider ce Christ a remonté sa croix. Je trouve que c'est une très belle illustration que, quelle que soit la différence, il y a de l'humanité partout.
Et il y a de l'aide. Donc cette association Simon de Sirène, en fait, prévoit des lieux de vie en communauté pour des personnes qui souffrent de handicap, c'est ça?
Oui, c'est du très grand handicap. C'est-à-dire que c'est du traumatisme crânien, polyhandicap. Souvent les gens qui ont des difficultés cognitives ou d'expression, qui sont aphasiques. Donc c'est le handicap le plus extrême qu'on puisse imaginer. Et C'était très difficile pour ces gens et leurs familles. Et cette idée de les remettre dans des lieux en centre-ville, ouverts sur l'extérieur, avec des jeunes du service civique qui viennent passer un an ou deux, qui viennent donner un coup de main, mais ils donnent un coup de main, mais qu'est-ce qu'ils apprennent de ces gens très fragiles? Donc vous voyez, cette pédagogie réciproque entre ce jeune qui découvre la vie et ce très grand abîmé qui explique ce que c'est que la fragilité, c'est une manière de guérir le monde. Voilà, c'est un peu utopique, mais c'est pas utopique, c'est la solution.
Est-ce que vous avez l'impression que ce film Intouchable a permis de changer justement le regard sur le handicap?
Alors, avant de répondre tout à fait à ça, je voulais dire que ce film Intouchable a eu l'extraordinaire générosité. C'est probablement la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un producteur donne 5% des recettes pour Simon Tziane.
Justement pour Simon Tziane. C'est vrai que c'est
important. C'est quand même extraordinaire. Oui. Je demandais rien, je demandais un petit geste. Mais je pense qu'il a été touché par le
comme
handicap.
Ça, comme ça a bien marché, comme film, on s'imagine que les 5%, c'était
ça a aidé beaucoup, Simon Tziane. Mais on ouvre 300 nouveaux appartements par an. Il y a 10 000 nouveaux cas par an en France, n'oubliez pas. Donc c'est vous dire que le travail qui reste à faire. Donc le début de votre question, du coup, je l'ai oublié.
Eh ben non, mais je vais vous la redire, c'est pas grave. Est-ce que ça a permis, ce film, de changer le regard sur le handicap?
Oui, il faut se faire attention.
Ouais, c'est ça. Hein.
J'ai beaucoup de gens handicapés qui m'écrivent en disant c'est sympa, ça nous a fait du bien, les gens comprennent un peu mieux, nous tiennent la porte maintenant alors qu'avant on la prenait dans la figure, etc. Mais il faut pas que ça donne l'impression que tout est facile dans le handicap. C'est une magnifique comédie, très bien faite.
Drôle.
Drôle, généreuse, chaleureuse, humaine, émouvante, touchante. Bon, c'est admirable. Mais que ça nous occulte pas la difficulté qu'il y a encore à être handicapé de nos jours et qui va durer.
Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu passager, c'est-à-dire sur le moment, certes, ça a changé le regard, puis on reprend nos vieilles habitudes et quand même il y a un problème de regard sur l'autre, sur la question du handicap. Et je dirais qu'en France, on n'est pas bon là-dessus, mais même si on compare aux pays du nord de l'Europe, et alors vous comparez beaucoup aussi avec l'Afrique, mais on n'est pas très bon là-dessus.
Oui. Disons que le regard, ça est un peu plus bienveillant, mais que il reste beaucoup de choses à faire. Même si la France fait quand même pas mal, il y a encore du travail à faire au niveau de l'accessibilité. Mais bon, tout ça coûte cher et nous sommes dans une société en crise, encore une fois. Donc je lui dis toujours, d'accord, on peut faire mieux pour le handicap, mais je dis aux handicapés, vous avez votre part à faire. Vous devez aller faire, j'adore dire ça, vous devez faire votre premier pas. Comme nous sommes en fauteuil, c'est un peu plus compliqué, mais il faut aller vers l'autre, séduire, expliquer qu'on n'est pas méchant, qu'on n'est pas dangereux, que si on n'est pas très sexy, on est assez gentil. Non, mais toute une pédagogie du handicapé lui-même, malgré sa difficulté d'être. Et il va trouver que c'est un peu injuste, parce que c'est lui qui est en fauteuil, il faut faire un effort. Il y a un affaire, il faut le faire. Mais il faut que la société aussi contribue, mais pas seulement par le regard, mais par l'impôt, qui est une solidarité extraordinaire, par l'irrigation des associations. Et le président de la République parle beaucoup de remettre l'associatif au centre du dispositif, puisqu'ils sont prêts, des gens en difficulté. Pas seulement les gens handicapés en fauteuil, mais les handicapés sociaux. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire par l'associatif. Donc ça doit se faire dans les deux sens. L'exclu, qu'il soit cassé ou pas dans le circuit, et la société doivent se rejoindre.
On se retrouve, si vous voulez bien, dans 3 minutes, hein, juste après les informations, toujours avec Philippe Pozzo di Borgo, qui vient de publier « Toi et moi, j'y crois » aux éditions Bayard.
Priorité santé.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, je reçois Philippe Pozzo di Borgo. Vous connaissez son histoire, c'est celle racontée dans le film Intouchable. Il y a 22 ans, il est victime d'une chute de parapente qui le rend tétraplégique. Il a alors 42 ans et doit réapprendre à vivre. Aujourd'hui, il vient de publier « Toi et moi, j'y crois » aux éditions Bayard. Pozzo di Borgo, on reparlera un peu plus tard de votre livre, Toi et moi j'y crois, mais j'avais évidemment envie de parler du débat sur la fin de vie. Vous vous êtes engagé contre l'euthanasie. Pourquoi ?
Parce qu'encore une fois, je suis un privilégié, mais j'ai assisté à des choses assez tragiques dans le milieu du handicap, où il y a une telle désespérance. Donc, je me suis engagé sur ce débat sur la loi Leonetti-Claeys, qui est sur la sédation profonde et continue, pouvant amener éventuellement jusqu'à la mort du patient, à la demande du patient.
Ce qui n'est pas l'euthanasie, en fait.
Ce qui n'est pas l'euthanasie, non. Non, c'est tout à fait quelque chose que je comprends. Monsieur Leonetti sait très bien de quoi il parle, puisqu'il est le responsable de la loi en 2005, qui a été une référence en Europe. Donc, Monsieur Leonetti et Monsieur Claeys savent ce qu'ils font. Simplement, il y a un petit risque. C'est qu'en me donnant, moi, le privilégié, encore une fois, qui suis entouré, qui éventuellement un jour sera en fin de vie, très douloureux, qui ne supporte pas mon état, la possibilité par la loi de demander qu'on me débranche. Surtout si je l'avais exprimé à l'époque où j'étais valide. En faisant ça, tous les pauvres qui sont en fin de vie, mais dans une misère noire, une solitude, un état psychologique tragique, vous leur dites, ta vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Et c'est cette violence qu'on fait aux sans-voix, aux humiliés, aux silencieux, que j'ai voulu qu'on évite d'oublier, parce que c'est eux qui souffrent. Je comprends qu'il y a des moments en fin de vie où, médicamentalement, il n'y a plus grand-chose à faire et que là, les médecins autour du patient, en accord avec la famille, décident d'abréger par une sédation. Mais la sédation, ça veut dire mettre dans le coma. Ça veut dire paralyser. C'est un paralysé, vous leur mettez une dose et il est dans le coma. Il n'est plus en état d'être en relation. La fin de vie, qui est une chose tout à fait naturelle dans la vie, malheureusement, est avant tout une nécessité d'être en lien. Et c'est tout le programme du président de la République sur les soins palliatifs. Il faut développer les soins palliatifs pour assister la personne mourante à rester en lien jusqu'à la fin. Et c'est ça toute la dignité de celle qui meurt, mais de celui qui assiste.
Mais cette idée de la sédation profonde, c'est plutôt pour éviter la douleur.
Oui.
C'est quand même ça l'idée. Vous, ce dont vous avez peur, c'est que ce soit, entre guillemets, mal utilisé.
Pas tout à fait. C'est que la douleur est très compliquée, mais que la médecine sait traiter beaucoup de douleurs. Et qu'il y a très peu de cas où la douleur ne puisse pas être traitée. Dans les cas où ça ne peut pas être traité, je comprends. Mais la grande douleur, elle n'est pas médicale, celle qu'on ne peut pas traiter, c'est la psychologique. Et ça, tous les experts en fin de vie vous diront, la grande souffrance est psychologique. Et la guérison de la souffrance psychologique, c'est pas de vous mettre dans le coma, c'est d'être avec vous. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Dans douleur, il y a des choses très différentes.
Et donc vous n'avez pas finalement été entendu parce que ce texte a été voté à l'Assemblée nationale, alors il doit encore passer devant le Sénat, il va y avoir une navette aller-retour avant d'être voté définitivement par l'Assemblée nationale.
Non, nous avons été très bien entendus parce que tous les amendements qui voulaient justement amener l'euthanasie, ce qui est tout à fait différent, c'est-à-dire la possibilité d'arrêter la fin de vie à la demande, ont été écartés. Et c'était ça qui était extraordinairement dangereux.
Finalement pas trop mécontent de la solution.
Non, va dépendre des décrets d'application et des directives de bonne pratique, vous savez. Mais là, je fais confiance quand même au bon sens des députés et des sénateurs pour rester très raisonnable et bien respecter la personne en fin de vie. Donc je suis pas très inquiet si on ne déborde pas du cadre de la loi qui est présentée.
Si je comprends bien aussi un peu dans ce que vous dites par rapport à ce débat sur la fin de vie, c'est de dire, mais moi, ok, je suis tétraplégique. Si on me l'avait dit avant, d'ailleurs, j'aurais dit, oulala, mais je veux pas vivre dans ces conditions. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes heureux de vivre.
Oui, ça,
peut-être
c'est l'aspect.
Plus que quelqu'un sur ses deux jambes, d'ailleurs.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est l'aspect de dire les directives anticipées, qui est un aspect de la loi.
qui existait déjà dans la loi Leonetti, hein, oui. D'ailleurs, qui est très peu appliquée.
Oui, très peu appliquée. J'ai un petit peu de mal à comprendre, parce que effectivement, on m'aurait demandé ça du temps de ma splendeur. Est-ce que vous voulez vivre, si vous êtes tétraplégique, dans les souffrances atroces que j'ai des souffrances très désagréables. J'aurais dit, comme 92% des Français, non, je passe la main, là, vous voulez bien. Mais je suis très content d'être là. Et puis, comme c'est pas comme être par un tétraplégique de suicider, je suis toujours là. Même si j'ai parfois eu la tentation.
C'est ça, vous avez eu des moments de désespoir.
Après le décès de mon épouse.
Oui. Et en fait, c'est ce moment-là le plus difficile. C'est pas le moment du début de votre handicap.
Non, pas du tout.
C'est le décès de votre épouse.
Mais c'est la solitude qui est insupportable. Comme en fin de vie, c'est la solitude qui est insupportable. Vous savez qu'il n'y a que 20% des Français qui devraient, et qui sont en soins palliatifs. 80% n'y ont pas accès, qui devraient y être. C'est ça le problème de base.
C'est ça l'urgence.
L'urgence, elle est là. Et le président a très bien compris, le président de la République. Il le sait.
Vous venez d'évoquer la question de la douleur. Vous souffrez, en fait, tout le temps, par exemple en ce moment, vous souffrez?
Oui, avec des pics plus ou moins importants.
Comment vous faites, là? Parce que je vois dans votre livre, vous dites, j'essaie de ne pas y penser, mais ça ne doit pas être très simple, quand même. Je fais peut-être un petit raccourci en disant ça.
La souffrance est un enfermement, soyons clairs. J'ai la chance de sortir de temps en temps, alors que je connais des amis qui sont dedans en permanence, et c'est très difficile. La seule manière d'en sortir, c'est de vous regarder. Claire, je suis désolé de vous le dire, mais si je vous regarde...
Vous pensez à autre chose?
Vous me rafraîchissez. Et je dis toujours aux personnes qui vont rendre visite à des proches qui sont dans la souffrance, ne venez pas pleurer sur eux, parce que vraiment, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais venez nous rafraîchir. Racontez-nous votre vie. Racontez-nous des anecdotes. Vos petits bobos, même, ça m'amuse beaucoup que vous ayez un rhume, vous savez. Ça me fait plaisir, même, que vous ayez un rhume. Ou que vous n'ayez pas trouvé une place pour vous stationner dans la rue. Faites-nous vivre. Sortez-nous de notre enfermement, voilà.
Vous dites d'ailleurs que votre handicap change le rapport avec les gens dans deux sens. Il y en a que ça déstabilise, mais il y a aussi un rapport beaucoup plus rapide de vérité. Et c'est absolument incroyable ce que les gens vous racontent leur vie.
Oui, c'est très touchant. Probablement parce que comme pour moi, d'ailleurs, je n'avais jamais été confronté au handicap. Je ne voyais pas les handicapés, j'allais trop vite. Et j'ai rencontré des gens très actifs et qui me tendent la main pour me dire bonjour. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que je ne peux pas réagir. Et ils se sentent un peu bêtes, et très gentiment, très simplement, ils se désarment à ce moment-là. Le handicap, et si nous faisons l'effort, nous les gars handicapés, on peut pas faire peur aux gars en face de nous, hein. Il faut séduire, encore une fois. Mais si on séduit, le désarmement se fait très rapidement, et du coup on est dans une relation de vérité qui est tout à fait magnifique, que je ne connaissais pas avant.
C'est ça, ça a changé votre relation aux autres.
Ah oui, oui. C'est considérable. Avant, je ne voyais pas les autres parce que j'allais trop vite. Donc, soit ils couraient aussi vite que moi, et on se parlait un petit peu comme ça parce qu'on était dans le move, soit j'allais tellement vite qu'ils restaient sur le bas-côté et je ne les voyais pas. Donc, il n'y a pas de rapport quand vous êtes dans l'agitation et le bruit. Il faut tout d'un coup paralysé ou silencieux et immobile, en tout cas. Et tout d'un coup, vous êtes disponible à l'autre. Mais l'autre, il ne demande que ça, le gars qui court. Moi, qu'une
se poser.
Petite pause comme ça, j'appelle ça la pause pozzo, vous savez. Posez-vous un peu, il demande que ça, il respire, il se retrouve. Il est en vérité, enfin.
Moi qui ai eu une journée agitée, vous me calmez en tout cas. Mmh. Ça a changé aussi le rapport avec vos enfants. Vous avez quatre enfants aujourd'hui, vous en aviez deux à l'époque.
Avec Béatrice.
Voilà, avec Béatrice, vous êtes remariée depuis, on parlera de Khadija après. Mais ça a changé vos rapports avec vos enfants, justement, de vous poser.
Oui. Parce que dans cette vie de patron que j'étais jusqu'à 42 ans, la famille c'était un peu le havre. Là où au moins on n'était pas dans l'agression.
La compétition,
l'efficacité. Mais c'était trop utiliser les enfants comme un havre ou comme une compensation au stress de l'extérieur. Donc j'adorais mes enfants à l'excès. Mais c'est pas comme ça qu'on rend service à un enfant. Un enfant, il faut lui dire, je te fais confiance et je te laisse. Je m'efface un peu devant l'enfant. L'avenir, c'est lui, c'est pas moi. Donc il faut se reculer, un peu faire un pas de côté et laisser l'enfant grandir. Ce que je n'ai pas su faire avec mes aînés. Maintenant, ça va mieux. Hein. Je suis beaucoup plus calme que dans le temps. Et avec mes jeunes filles, avec Khadija, je suis tout à fait à l'écoute et sous le charme, et beaucoup moins envahissant.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, je reçois Philippe Pozzo-Di-Borgo qui vient de publier « Toi et moi, j'y crois » aux éditions Bayard. Vous étiez justement, Philippe Pozzo-Di-Borgo, en train de parler de votre femme, Khadija. Une rencontre assez incroyable.
Oui, Abdel, donc c'est Marcy, et je veux pas remercier, qui suivait très près mon état parce que j'ai des douleurs parfois très insupportables. Et nous avons eu une grande période de canicule en France en 2003. Et j'étais un peu limite, comme beaucoup de personnes très fragiles à cette époque. Encore une fois, je suis privilégié. Abdel dit, bon, faut le sortir de là. Il m'amène à Marrakech en plein hiver. Et je me suis senti tout d'un coup beaucoup mieux. À tel point que j'ai pu me remettre en fauteuil. Et puis que j'ai adoré le Maroc que je connaissais comme enfant. Mais j'ai redécouvert ce Maroc avec cette gentillesse. Et je suis invité... Et pendant cette soirée très très chic et très bien, qui m'a embêté beaucoup, pas beaucoup, mais disons que c'était pas ce que je recherchais, heureusement j'ai fait un très gros malaise, et la seule personne capable de venir me secourir, ça a été Khadija, qui était là, qui s'occupait de la gestion de ce riad. Tous les autres avaient fui sur le toit tellement ils ont eu peur, tous ces occidentaux. Et voilà cette charmante femme qui se penche vers moi, qui pendant une heure et demie essaie de me remettre sur pied. Avec un sourire, je vous dis pas.
C'est en vous parlant, belle. C'est ça? Elle vous parlait?
Elle parlait ou elle amenait des confitures ou elle était là. De temps en temps, je disparaissais dans l'inconscient. De temps en temps, je revenais. Toujours ce sourire éblouissant.
Et donc, vous l'avez épousée? Et
nous l'avons épousée. Ça n'a pas été facile.
Mais non, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Quel était le... Vous êtes issu d'une famille relativement aisée. Quel était le regard de votre famille et puis de la belle famille?
La belle famille, surtout, parce que j'étais au Maroc. Je décide, du coup, de rester au Maroc avec Khadija et de l'épouser. Mais un tétraplégique...
La belle-mère n'a pas trouvé que c'était l'idée du siècle, c'est ça?
Et pourtant, elle est charmante. Et finalement... On est meilleurs amis du monde. On se comprend pas parce que je parle pas bien l'arabe. Elle ne parle pas du tout le français. Mais elle est absolument délicieuse. Mais au début, elle a dit, ça va pas. Je comprends, elle protégeait sa fille. Et de mon côté, c'était pareil. Bien qu'ils me connaissent et qu'une fois que j'ai décidé quelque chose, ça se fait comme ça, c'était pas évident. Et maintenant, tout ça est très harmonieux. Khadija est avec moi à Paris en ce moment. On voit toute la famille et...
Et vous avez deux enfants, vous avez deux autres enfants, du coup, hein, c'est ça, en tout, vous avez quatre enfants. Dans votre livre, vous dites que vous êtes bien marqué par votre grand-père, hein, Robert-Jean de Vaugueuil. Il dirigeait les champagnes Mouette et Chandon. Vous avez, hein, vous d'ailleurs, travaillé dans ce domaine-là, oui. Jusqu'à votre accident. En quoi ce grand-père vous a marqué? Parce qu'il était de fait aussi, lui, un peu iconoclaste pour son époque.
Oui, on l'appelait le Marquis Rouge. C'était un homme de conviction. Il a été condamné à mort par les Allemands pour faire de résistance. Il est envoyé en camp de concentration avec son chef syndicaliste. Et il survit miraculeusement. Et aussi par la volonté, hein, soyons clairs. Et ils reviennent très abîmés, mais ils se remettent sur pied tous les deux. Et ils appliquent les recommandations du Conseil national de la résistance dans l'entreprise, qui est une entreprise familiale. Et en quelques 10 ans à peine, cette entreprise très moyenne devient première de Champagne. Les ouvriers employés sont payés 2 fois plus que tous les autres dans l'industrie. L'échelle des salaires est rétrécie. Les ouvriers participent aux décisions. Enfin, c'est une révolution dans l'entreprise. Mais c'était très intelligent. Parce qu'une fois que vous respectez l'autre, c'est toujours le thème de ce livre, vous savez. Si vous respectez l'autre, l'autre vous donne le meilleur de vous-même, de lui-même. Donc ce groupe moyen est devenu très performant dans la Champagne, puis s'est agrandi dans le cognac, puis dans les parfums. Et aujourd'hui, c'est devenu le groupe LVMH, qui est un groupe financier maintenant tenu par M. Arnaud. Mais à l'origine, c'était ce vieux grand-père que j'adorais et qui a fondé ce bijou.
Mais franchement, entre nous, est-ce que LVMH, aujourd'hui, applique les mêmes méthodes que votre grand-père? Je ne sais pas pourquoi, j'en suis pas sûr.
C'est drôle, comme je crois que vous avez raison. Non, c'est une entreprise qui est devenue dans la frénésie de la finance, avec peu de considération, toujours très efficace bien entendu, mais la considération n'y est pas, et je crois que c'est très important qu'il y ait la considération dans une entreprise pour donner une âme, pour donner une consistance à toutes ces marques. Ça marche pour l'instant. Bon, je souhaite que un jour cette entreprise revienne à plus de.
Vous n'avez pas envie. Oui, vous n'avez pas envie de conseiller les entreprises dans ce domaine. Votre côté grand sage, non, pourrait pas servir.
Si, ça m'arrive beaucoup de faire des conférences. L'année dernière, pendant mon hospitalisation à Nantes, je me suis levé une fois et j'étais parlé à 3000 patrons. Et j'aurais dit la même chose. J'aurais dit, écoutez, remettez les individus de l'entreprise au centre du jeu de l'entreprise et vous verrez comment ça sera beaucoup plus durable, beaucoup plus intelligent. Parce que quand vous mettez toutes les personnes, aussi différentes soient-elles, dans l'entreprise et que vous les écoutez, vous avez une intelligence qui se crée. Si c'est les financiers en haut qui décident, ils pensent tous de la même manière. Bon, on peut être très bon en marketing, mais on pense tous de la même manière. Non, non, il faut faire appel à toutes les intelligences, toutes les différences. Et j'ai des amis, notamment à Nantes, qui sont patrons et qui emploient beaucoup d'handicapés. Mais ils me disent, mais les handicapés, ils créent dans l'entreprise une autre manière de voir les choses. Et, très important, comme ils ont besoin d'aide, ils créent un esprit d'équipe. Et puis, dernier point, ça fait toujours rigoler quand ils me disent ça, il n'y a plus d'absenté chez nous, parce que quand on a un handicapé chez nous, on n'ose pas être malade pour un rhume.
Oui. C'est ça, on se dit non, ça la fout mal. Il y a un problème d'ailleurs sur l'emploi des personnes handicapées, sur même l'accès à l'école, il n'y a pas de raison qu'ils réussissent moins bien. Là-dessus, pareil, on n'avance pas très vite, on a quand même des exemples de pays qui font mieux que nous.
Oui, on peut faire mieux. Bien sûr qu'on peut faire mieux. Bon, c'est toujours une question de choix politique. Je crois que notre société est arrivée à une telle difficulté d'être ensemble. Il y a telle raideur, de tel antagonisme, de telle crispation, que petit à petit, on va se rendre compte qu'il faut réintégrer tout le monde pour décrisper l'entreprise. Mais ce sont des choix politiques. Ce sont des choix de société. Je suis à peu près sûr que celui qui arrive en disant, écoutez, on va peut-être faire un peu différemment, on va arrêter de mettre de côté ceux qui peuvent pas, et puis de privilégier les plus performants. On va essayer de faire une petite moyenne, tout ça ensemble, de vivre ensemble. Je pense qu'il sera écouté, que les gens demandent que ça. Le succès d'Intouchables, c'est beaucoup ça. C'est qu'ils ont trouvé une solution aux inquiétudes qu'ils avaient. Je crois qu'il y a beaucoup du succès vient de cette idée que les gens sont d'accord avec cette manière d'être ensemble.
Et du fait, ce que vous avez dit au début de l'émission, hein, de ces deux exclusions qui finalement se rejoignent, celle du handicap et l'exclusion sociale qui fait qu'on n'a pas de travail. Et enfin, Omar Sy, il arrive en se disant, mais de toute manière, je ne serai pas employé, donc tamponnez-moi juste le papier pour que je puisse toucher les ACEDIC. Bon. Mais voilà, je sais que je ne suis pas employable, entre guillemets.
Vous savez ce qu'est fait Abdel aujourd'hui?
Ah oui, non, racontez-nous, il vient quoi, Abdel... ouais, parce qu'il n'est plus avec vous, là, vous avez un autre Abdel aujourd'hui.
Oui, il s'appelle Hichem. Mais Abdel, depuis 7-8 ans, a monté une usine de poulet industriel en Algérie. Donc ce garçon, qui a passé son temps à courir devant les poulets, les met en cage maintenant. Et bon, il contribue à la société. Il est intelligent, donc voilà. On perd beaucoup de choses, vous savez, à éliminer, simplement parce qu'il s'est pas tout à fait comme tout le monde.
Et son entreprise, ça marche, justement?
Ouais, ça marche. Il y a encore du boulot. Mais il va y arriver.
Pourquoi, justement, il a eu envie, entre guillemets, de vous quitter, d'aller voir ailleurs? On le voit aussi dans le film avec Omar Sy qui passe à autre chose. Pourquoi c'était important? Parce que j'imagine que vous avez eu une partie de vous-même, vous avez eu envie, entre guillemets, de le garder. Le même sens de l'humour qu'Omar Sy, j'imagine que ça... Enfin voilà, le changement, après, c'est difficile de retrouver quelqu'un qui vous fait rire, sourire.
C'est très drôle. Parce qu'au bout de 10 ans... Au bout de 10 ans, Abdel est tombé amoureux. Parce qu'Abdel, avant, avait des rapports aux femmes un peu rapides, disons. Et tout d'un coup, il est tombé sur une Marocaine charmante, et il l'a épousée. Il a 3 enfants, et il a tourné une page. Il s'est inscrit dans le monde, et dans la durée, puisqu'il crée une famille qui, au début, dans son esprit, était impensable. On ne peut pas créer une famille dans un monde aussi dur qu'exclu. Vous voyez, comme quoi on peut évoluer.
Votre livre, Toi et moi, j'y crois, c'est vraiment, je dirais, un peu des conseils ou votre vue sur le mieux vivre ensemble. Et vous dites à un moment, quelle dépendance que de vivre selon le regard de l'autre.
Oui.
C'est ce que le handicap vous a appris, à ne plus dépendre du regard de l'autre?
Oui, encore une fois, moi je suis un privilégié, donc ça m'a jamais gêné le regard des autres. Mais je comprends que ça puisse être humiliant, le regard des autres. Lorsque vous êtes cassé et un peu misérable, comme ça, un peu sur le bord de la route. Notre société formate le regard. On nous dit c'est comme ça qu'il faut être. Toute la publicité nous le dit. On en arrive presque à penser qu'on ne vieillira jamais. Donc il y a une espèce de mensonge dans notre société. Et le handicap, il en souffre d'un prime abord. Mais le handicap, il est la solution à ce problème. Le handicap, qu'il soit physique ou social. Encore une fois.
Pourquoi c'est la solution au problème?
Écoutez, je reviens sur Simone Sirène, ces foyers pour très très grands handicapés. J'ai été confronté une fois, on m'a demandé de leur parler, ils étaient 50. Alors, nous sommes sur notre planète, là, soyons clairs. Ce sont des gens qui parlent pas. J'avais devant moi une très jolie femme comme vous qui bavait. Et qui me souriait, mais qui pouvait pas parler. Puis autour d'elle, des gens qui parlaient, regardant le plafond, d'autres qui parlaient pas. Enfin, une véritable cour des miracles. Et j'ai mis du temps, moi, qui supporte un grand handicapé, à me dire, mais qu'est-ce que je vais dire à ces gens? Et là, il a fallu que je me désarme complètement. Ça m'a mis beaucoup de temps. Que je fasse silence en moi et que je me mette à les considérer. Pas moi, regardant ces gens très différents, mais moi qui m'efface et je regarde. Et qu'est-ce qu'ils me racontent? La femme qui me regardait avec le visage de travers qui bavait, elle avait un grand sourire dans les yeux. Mais il fallait que je prenne le temps de comprendre qu'elle ne me souriait pas les yeux. C'était le seul mode d'expression qu'elle avait. Donc vous voyez, quand vous prenez le temps de considérer l'autre très, très, très différent, presque il vous fait peur.
Et vous leur avez dit quoi?
Pardon?
Pardon, vous leur avez dit quoi, du coup?
Finalement, pas grand-chose. Je les ai regardés. Certains, je disais un mot quand ils pouvaient comprendre. D'autres, j'avançais mon fauteuil pour aller toucher le leur. Et pendant 2 heures, on a échangé d'une autre manière. Mais j'ai compris leur chemin de dignité à chacun, qui est différent. Et ça, c'est une source d'intelligence incroyable, si vous êtes capable, vous, de vous oublier et de regarder ce qu'ils vous disent, ce qui n'est pas tout à fait dans la norme. Et si vous pensez à l'écologie et à la création qu'on détruit, parce que nous imposons une solution, nous les actifs. Si au contraire, au lieu d'imposer la solution, on regardait ce que la nature nous demande, ou ce que cet être très fragile vous demande, on résout tous les problèmes de la société et de la Terre.
Vous venez de dire que justement ces personnes handicapées, très fortement, très lourdement handicapées, quand vous les avez rencontrées, vous les avez touchées. Ça me renvoie à ce film Intouchable, à ce terme d'intouchable. Et vous vous dites effectivement, on ne peut pas vous serrer la main parce que votre handicap fait que vous ne pouvez pas lever la main. Mais on peut vous toucher et vous apprécier ça.
Cette façon d'entrer en contact. Si vous m'embrassez en plus, je suis pas contre.
Je vous promets en partant.
D'accord.
Mais je voulais cette question du toucher, du contact est important et qu'on est peut-être dans une société qui se touche pas forcément bien.
Ouais.
Enfin, je sais pas comment le dire.
Oui. Je dis toujours aux valides, penchez-vous sur la personne qui est plus basse que vous d'abord. Et même besoin, mettez-vous à genoux. De temps en temps, je dis, mais si vous êtes trop grand, je peux pas lever la tête. J'ai une barre de fer dans le cou, je peux pas lever la tête. Donc, descendez à mon niveau, s'il vous plaît. Et donc, je crois déjà que cette simplicité dans le regard d'égal à égal guérit, est un premier pas de guérison.
Philippe Pozzo di Borgo, juste une dernière question par rapport à ce livre « Toi et moi, j'y crois » qui paraît aux éditions Bayard. Un beau livre hein, sur le vivre ensemble, moi qui me plaît bien. Mais franchement, est-ce que c'est pas un peu utopiste? Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui n'entend pas bien ce que vous dites?
Oui, alors, il y a 2 solutions. Soit on laisse la société faire comme elle fait, on est dans une impasse épouvantable. Soit on prie le ciel que la solution nous vienne d'en haut et que tout d'un coup, tout se devienne évident. Oui, il y a une autre solution qui est très pragmatique, c'est qu'on s'y mette chacun un petit peu. Et ce livre, c'est ça. Commencez déjà par vos proches, et changez votre manière d'être avec vos proches, parce que vous y gagnez, eux ils y gagnent. Et si on fait ça par communauté, par association, par parti, par quartier, toutes sortes de rassemblements, et qu'on change notre manière d'être ensemble, on va peut-être arriver à faire bouger les choses. Il y a un risque, hein, bien sûr, quand vous voulez faire confiance à l'autre ou aux autres, il va vous trahir. Mais le risque est bien moindre que celui qui est de croire
seul.
Que vous avez trouvé le bonheur par vous-même. Là, vous vous trompez complètement.
Bon, vous pensez quand même, Philippe Pozzo di Borgo, que vous pouvez changer le monde.
Que nous pouvons changer le monde. Toi et moi.
Merci beaucoup, hein, Philippe Pozzo di Borgo. C'était très chouette de vous rencontrer, si je peux m'exprimer ainsi. Vous venez de publier « Toi et moi, j'y crois » aux éditions Bayard. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké et Jeanne Cherquefosse. Au revoir à tous et à demain.